Bonjour à tout le monde. Alors aujourd'hui, je reçois deux gens qui sont deux personnes qui sont des spécialistes du courage. Parce que Robert Ménard, vous avez fait preuve de courage dans votre vie. À plus,
Merci, on essaie.
on essaie. Et quant à François Bousquet, vous avez non seulement fait preuve de courage en créant une nouvelle librairie. Vous savez, cette librairie où vous trouvez ces livres que vous ne trouvez nulle part ailleurs.
Voilà, et dont les vitrines sont régulièrement attaquées et détruites par les antifas.
Par les antifas. Et vous avez été jusqu'à écrire un livre que j'ai lu d'ailleurs, Manuel du courage, et Manuel de guérilla culturelle, et que j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé. Donc, alors, on va parler avec vous de courage et de la situation un petit peu en France, parce que c'est une émission littéraire, puisque là, on présente des livres, mais c'est aussi un endroit où les gens qui présentent des livres, ces livres ont une caractéristique, c'est qu'ils essayent de parler de la situation de notre pays, la plupart d'entre eux. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a beaucoup de gens qui se font des soucis sur l'avenir de notre pays. Je ne pense pas que je vous
Ça ne fait pas exception à
je
ça.
Fais pas, ce, non, non, je crois que les trois qui savent là, nous faire.
Mais Robert, plus que nous.
Mais Robert, lui, non, Robert, il a un gros désavantage sur nous, c'est qu'il a les mains dans le cambouis. Nous, on est là, on pérore sur ce qu'on devrait faire et tout, mais lui, il fait. Alors, donc, on l'attaque. Donc, je voudrais d'abord vous poser une question. Vous avez écrit donc ce livre que je présente également, où il est d'ailleurs, je ne sais plus.
Mais je crois qu'il est là.
Ah, mais il est là. Ben, voyez, je suis. Merci beaucoup. Thérapie de choc. Donc, vous êtes en train de nous dire, Robert aussi, dans sa vie, là, un club de Béziers de rugby, qui a été une des gloires du rugby français. La moitié de l'équipe de France pendant des années venait de Béziers. Enfin, c'était les grandes années quand j'étais étudiant à Toulouse. Et vous êtes en train de dire que dans le fond, le moment est venu d'ouvrir, comme on dit au rugby, la boîte à claques, quoi.
Ah, écoutez, c'est à peu près ça, dans des termes qui me vont très bien. Et je suis juste comme vous tous. C'est-à-dire, je constate que d'abord, on ne peut pas continuer comme ça. On est, à force de dire, de crier au loup, nous tous, on dit attention, regardez, notre pays, sa culture, sa civilisation, même sa langue est menacée, sont menacées. À force de dire ça, on va finir par plus nous croire, parce qu'on le dit depuis tant d'années.
Et qu'on fait rien. Et
Et,
en tout cas,
et surtout que les gens, quand même, ont le sentiment que oui, peut-être ils disent ça, mais est-ce vrai et tout. Aujourd'hui, vous sortez dans les rues de ma ville, mais comme en France, c'est pareil, et vous découvrez la réalité, que c'est tangible. La France que j'aime, que nous aimons, cette France-là, elle est en train de se déliter. Cette France-là, elle est en train de disparaître, mais au sens propre. C'est pas un fantasme, c'est pas une discussion ici, c'est pas des propos de meeting, c'est pas des effets de robe ou des effets de mots. C'est une réalité tangible. Et donc, ce petit livre, il a comme vocation de dire, comme ambition de dire, voilà, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Parce qu'on ne peut pas continuer à se dire que, allez, c'est raté pour 2022,
22.
commençons à penser à 2027. Je ne sais pas si la France en 2027, et j'exagère pas, sera encore la France. Elle existera, la France, il n'y a pas le moindre doute. Mais
Ben, géographiquement, elle ne va pas disparaître.
Oui, non, mais
Et
voilà.
tout s'accélère.
Est-ce que ce sera la France que nous aimons, la France qui nous fait rêver, la France de nos mémoires, la France de nos envies? Je n'en suis pas sûr.
Mais je suis tout à fait. On a reçu ici beaucoup de gens. Et ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que dans le fond, derrière ça, c'est ce que dit un homme comme Bock-Côté, il y a une réalité. C'est-à-dire que la plupart des élites qui nous dirigent ne croient plus en la démocratie. C'est-à-dire qu'on est passé dans un système où être bien, c'est protéger les ultra-minorités qui peuvent être violentes avec l'aide des tribunaux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, être un homme honorable, c'est protéger les minorités et s'appuyer sur une justice que personne n'a élue, qui enlève dans le fond, qui a enlevé tout pouvoir à l'exécutif. C'est-à-dire qu'on a une espèce d'émasculation de l'exécutif, ou je me trompe, qui n'ose plus faire son boulot. Je ne sais pas ce que vous en pensez,
Oui,
François.
ce serait plutôt à Robert de répondre, puisqu'il est au cœur de l'exécutif, en tout cas l'exécutif régional,
Oui.
municipal. Hein. Mais de fait, oui, la démocratie a été confisquée. Il y a un livre de Tardieu fantastique qui s'appelle Le Souverain captif, qui est assez ancien. Ce souverain, c'est le peuple. La
C'est
volonté
ça?
populaire, elle a été détournée par les élites parlementaires. Alors, votre épouse Emmanuelle montre le contraire, mais la chambre de LERM, c'est 10% du corps électoral. 10%. Donc il y a 90% qui ne sont pas pour la majorité parlementaire. Cette démocratie, elle a été confisquée, par, vous l'avez dit, par les magistrats. Donc il y a un pouvoir juridictionnel à l'américaine, en fait.
Et qu'on a
d'une
même
cour suprême, d'une Cour suprême qui contrôle les décisions du peuple, qui les soumet à l'idéologie des droits de l'homme. Donc le peuple est dépouillé. De fait, il est dépouillé. Alors au niveau municipal, c'est assez différent. Je voudrais revenir sur la France. Béziers, il me semble, j'ai été à plusieurs reprises voir la ville de Robert Ménard. Il me semble qu'on l'appelait la Belle Endormie. Il y a avant vos mandats. Et alors c'est une ville magnifique. Il y a des châteaux d'épinardiers, elle est magnifique. Et vous l'avez réveillée. Et la France est un peu ça. La France est la Belle Endormie. Il y a un mot de Dominique Vénère, c'est que c'est un état de dormition. Donc il faut qu'on la réveille. Il faut que quelqu'un la réveille. Et vous dites dans votre livre Thérapie de choc, le titre Vos programmes, que c'est une médecine de cheval. Et je rappelle, moi, aux gens qui nous écoutent, que la médecine de cheval, pourquoi on appelle Hippocrate Hippocrate. Hippos, c'est le cheval. Le cheval est associé à la médecine. Et le cheval est l'animal miraculeux, l'animal guérisseur. Donc ce livre-là, dont vous nous faites l'honneur de l'avoir confié à la nouvelle librairie, donc la fameuse librairie dont les vitres ont été cassées, cette thérapie de choc, c'est à la fois une médecine de cheval, parce que vraiment on est moribond, quoi, et en même temps elle est porteuse d'espoir, puisque le cheval est l'animal guérisseur. La thérapie.
Pardon, non. Je voulais ajouter, c'est ça, c'est que c'est pas perdu.
Non, c'est pas mais
non. Non, c'est pour ça que moi j'ai adoré le livre de François Bousquet, parce que qu'est-ce qui nous manque, François ?
Du courage. Le courage, voilà. Ouais,
du courage. On sait ce qu'il faut faire. On sait les mots M-A-U-X, on sait les mots M-O-T-S qu'il faut employer.
On sait ce que les gens
on
attendent.
On sait ceux qui freinent. Moi je pense qu'il y a deux gros freins qui sont les magistrats. Et ce pouvoir-là, les magistrats, c'est quoi ? C'est les magistrats, c'est aussi le Conseil constitutionnel, le Conseil d'État, la Cour de justice européenne, la Cour européenne des droits de l'homme. Là, on a quatre niveaux de décision qui sont autant de barrières. Il faudra prendre des mesures pour sortir de leur griffe. Et il y a un autre pouvoir, alors j'en parle parce qu'en plus j'en viens, mais on le connaît tous, c'est la presse.
Le pouvoir médiatique, quoi.
C'est-à-dire, et ils ont en commun quoi, les journalistes et les juges, de ne pas être élus. C'est-à-dire, c'est des gens qui sont les plus grands
donneurs
de leçons, mais aussi les plus grands mordeurs de mollets,
les plus grands chiens
de garde de l'ordre établi, et qu'ils soient de droite ou de gauche. Moi, les gens me disent oui, mais au Figaro, on n'est pas tous de droite ou de gauche. Oui, très bien, mais c'est pas de ça dont je parle. Sur les grands débats, sur les grands choix et tout, il y a un consensus dans la presse qui saute aux yeux. Voilà, on a tout ça maintenant. Il faut.
C'est-à-dire qu'on a transféré la souveraineté. Du peuple, qui est quand même le profondement de notre civilisation.
La démocratie,
on l'a transférée à des gens non élus qui se cooptent et qui excluent.
Ouais, et qui n'ont pas de légitimité. Parce que la souveraineté, je veux dire, il y a une souveraineté non démocratique. Je veux dire, après tout, les rois de France, la souveraineté n'est pas démocratique. Mais elle procédait d'un sacré. Elle procédait d'une théologie. Elle procédait d'un ordre vertical. Aujourd'hui, non, ils n'ont pas de légitimité. Or, c'est eux qui font la leçon en permanence au peuple. Oui. En France, en Angleterre, mais, aux États-Unis.
Je me balade un petit peu en France, et beaucoup moins que vous deux certainement, mais enfin, je me balade un peu de temps en temps. Et je remarque aujourd'hui en France, il y a deux catégories de gens qui sont haïs, mais je n'ai jamais vu ça dans l'histoire de France, depuis très longtemps, c'est les journalistes et les politiques. C'est extraordinaire, ils sont haïs. Quand vous parlez sur un marché à quelqu'un, les gens, mais ils ont envie de leur casser la gueule. J'ai jamais vu ça.
En même temps, je vais plaider à la fois pour les journalistes et les opinions, parce que
moi, je suis journaliste. Ouais. Ouais.
Et moi, vous aggravez votre cas, là. Ouais, vous en êtes sorti.
Non, mais parce que les gens, vous savez, parce que les gens, je l'explique, parce que les
c'est
gens...
C'est le retour du fils prodigue à Béziers.
Ah, un petit peu, ça, c'est vrai que c'était ça. Mais c'est plus sérieusement, parce que les gens, moi, je n'ai jamais vu de gens me demander de démocratie participative, me demander que je les questionne toutes les trois matins sur ce qu'ils veulent et tout. Ils ne me demandent pas ça, les gens. Ils demandent ce que vous disiez, ce que vous expliquez merveilleusement avec vos mots et votre talent, le plus talentueux de tous les intellects de cette génération, et c'est évidemment François Bousquet, avec ce talent-là, les gens, ils vous demandent de faire preuve de courage, c'est-à-dire de suivre dans les idées aussi. Vous avez pris des engagements, vous les respectez, c'est aussi bêtasson que ça. On vous élit pour ça, vous faites ça, et vous le faites contre les autres, et vous le dites, et vous prenez à témoin la population. La population est avec nous. Le drame de nos idées, puisqu'on a...
Elles sont partagées de façon générale.
Oui, mais comment se fait-il qu'on n'arrive pas à les incarner dans des gens qui eux-mêmes gagnent des élections? Comment se fait-il que tout ce qui paraît conflictuel... tout ce qui paraît conflictuel dans les débats à la télé sont des choses qui sont largement majoritaires dans l'opinion publique. Prenez l'islam, prenez l'école, la sécurité à l'école, prenez les questions d'immigration, prenez les questions de sécurité.
Régalienne, hein.
Voilà, régalienne. T'as 60, 70%, 80% des gens qui pensent exactement ce qu'on pense. Et on est dans l'incapacité de traduire ça sur le terrain électoral. C'est pour ça que je m'emporte des fois dans des débats et tout en disant arrêtons de débattre, il faut gagner des élections.
Et donc, il faut que ces idées soient incarnées dans quelqu'un. Parce que le dilemme qu'on a, que vous évoquez, Robert, c'est qu'il y a une enquête depuis 30 ans qui est faite sur le Front National, par Le Monde, RTL, et maintenant, c'est d'autres instituts de sondage. Hein. Et il apparaît que 2/3 des Français sont pour les idées du Front National, en tout cas en termes régaliens, et 2/3 sont contre le Front National. Donc, ça veut dire qu'ils sont pour le message, hein, et contre le médium. Hein. Parce qu'il n'y a pas de médium. Hein. Et moi, la question, genre, je ne veux pas me substituer à Charles Gave, hein, pourquoi ce livre? Pourquoi Thérapie de choc, hein, à la veille d'une échéance majeure, même si peut-être elle est avortée par avance. Hein.
Parce que je suis exaspéré, parce que pour les raisons que vous venez d'indiquer, parce que je sens, moi dans ma ville, j'ai réussi au niveau du vote et tout, mais je sens cette incapacité à traduire dans les urnes un certain nombre de sentiments majoritaires. Et on a, vous venez de le dire admirablement, le problème qu'on a, c'est qu'on n'a personne pour incarner ça. Or, dans ce pays... que vous le vouliez ou non, le changement, il passe par les urnes. On va pas faire la révolution armée. Bien sûr que non, et je le souhaite pas. Et je sais, pour avoir été 20 ans dans ma vie dans des pays en guerre civile, ce que sont des guerres civiles.
C'est les pires.
Pour les crétins, y compris de temps en temps proches de nous, qui pensent que, on va régler ça, les armes à la main ou avec un coup d'État. C'est des monstruosités. Mais maintenant, une fois que j'ai dit, on se retrouve avec un personnel politique, et en l'occurrence avec une candidate, je pense évidemment à Marine Le Pen, qui, malgré ses qualités, moi, chaque fois, je me méfie de ce que je dis parce qu'elle prend tout contre elle. Je dis pas contre elle. Honnêtement, elle a fait preuve de résilience. Moi, je donnais pas cher de sa peau en 2017 après un débat calamiteux entre les deux tours. Je croyais que c'était terminé. C'est pas terminé. Aujourd'hui, elle réunit grosso modo quand même un quart des Français là-dessus. Mais un quart des Français, ça fait pas une majorité des Français.
Cela étant dit, Robert, elle a jamais été aussi haut dans les sondages. Hein.
Oui, je sais.
Au deuxième tour.
Mais attendez, François, si demain, j'ai à choisir entre Marine Le Pen et Monsieur Macron, je voterai sans un quart de dixième, de millième de seconde pour Marine Le Pen. Le problème n'est pas là. Mon problème, il est-ce qu'il y a 50,01% des électeurs qui, à ce moment, le feront? Je suis sceptique. Y compris par rapport à ce que vous dites. Oui, mais je vous rappelle que vous avez, pour une fois, pas assez de mémoire. 15 mois avant, le premier tour des élections de 2017, je l'ai rappelé à Jean-Jacques Bourdin il y a quelques jours parce que c'était un sondage fait pour BFM Télé. À cette époque-là, il n'y avait pas encore Macron, on commençait juste à en parler. Elle faisait au deuxième tour 53% des voix et 47% pour Hollande. Ouais, M. Hollande n'était plus là. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que...
Il y a un processus d'érosion voilà, dès qu'elle entre en campagne. Hein.
Voilà. Et donc, comment nous on fait par rapport à ça? Le problème, c'est qu'on n'a pas d'alternative, c'est qu'on n'a personne qui peut incarner ça. Et ce livre, il est aussi une espèce de... C'est pas un programme, parce que le mot est pas sexy pour dire que t'as pas envie de lire un programme, mais c'est quand même quelques lignes fortes, déterminantes, sur lesquelles un candidat devrait avoir à se prononcer, on les a évoquées là, et sur lesquelles il devrait apporter des réponses. Mais si on n'a pas ça, pardon, vous allez continuer à faire des livres, à faire une merveilleuse
revue. Non, je sais bien.
Pardon, je suis très content que vous fassiez des livres. Je suis très content qu'il y ait éléments.
Chacun
je suis très content
faire.
Que vous nous receviez ici. Oui, mais moi, j'ai juste
des
envie.
Actes, des actes, des
j'ai
actes,
envie hein. de changer.
Des actes.
Oui, je pourrais
mais
aussi.
Mais simplement, les actes, il faut les adosser à des idées. Sinon, c'est le
principe. Non, les idées. Moi, quand je lis éléments tous les deux mois, pardon, je suis alimenté d'idées. Je suis nourri d'idées. C'est un lieu où je découvre, en plus, c'est une des rares revues qui... Vous savez, souvent, on a des revues
qui vous partagent. Je l'ai présenté ici. Hein.
qui partagent vos idées, mais qui vous lassent à force de ne pas se renouveler, vous renouveler de numéro en numéro. Je découvre toujours des choses.
Non, mais ce qui est intéressant dans sa revue, et j'en reparle ici en connaissance de cause, c'est qu'il nous montre aussi l'historique des idées. Ce n'est pas une idée neuve, c'est une idée qui vient de loin, qui a déjà essayé. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est que vous montrez non pas simplement l'actualité de cette idée, mais un peu le bagage.
Elle a un background, pour parler français, elle a une archéologie, une généalogie.
Oui,
parfois elle circule de manière souterraine, parfois en pleine lumière. Donc il faut essayer, mais simplement il faut les mettre, les jeter en lumière. Et je suis d'accord avec vous, il faut qu'à un moment donné, il faut qu'il y ait quelqu'un. Il ne faut pas s'en tenir au verbe.
Laissez-moi vous poser une question en tant que.
Puisque
vous êtes tous les deux des anciens. Français, moi j'avais quitté la France en 81 parce que je voulais pas vivre dans un pays où il y avait des ministres communistes, donc en 81 j'étais à Londres, j'ai pris la meilleure décision de ma vie pour 2 ans qui n'avait rien à voir avec tout ça, c'est que je me suis retrouvé avec Madame Thatcher, qui d'ailleurs, quand on l'a gueulé sur ce qu'elle faisait, disait écoutez, moi je suis un gouvernement de conviction, si vous voulez un gouvernement de consensus, la prochaine fois vous me virez. Et elle a été élue 3 fois. Donc ce qui me surprend, c'est que la plupart des gens qui nous gouvernent de droite, quand ils étaient de droite, ils essayent immédiatement de mettre de l'eau dans leur vin, etc. Et ils sont battus à chaque fois la fois d'après. Donc j'ai une espèce d'appel pour des gens qui ont du courage.
Vous me permettez, Robert ?
Mais bien sûr. Ouais.
Moi, je suis moins tachérien que vous, je le dis, puisque, mais bon, c'est... Mais pour autant, on vit dans l'idée, dans le schéma giscardien en France depuis 40 ans, de 2 Français sur 3. Donc, c'est une société consensuelle. Et c'est une société consensuelle, par définition, elle absorbe sa gauche et sa droite, et elle gouverne au centre. Hein. Or, on est rentré depuis quelques années déjà, depuis 10 ans. Trump, etc., on est rentré dans des sociétés de dissensus, de conflits, de confrontations entre la France périphérique, hein, entre la province. Hein. Je ne veux pas jouer à l'anti-parisien, je suis né à Paris. Je vis en province, mais je suis né à Paris. Mais contre les élites parisiennes, contre les élites bruxelloises. Hein. Et cette confrontation-là, c'est ce sur quoi, je veux dire, le candidat populiste ou conservateur doit jouer. S'il veut se faire élire, Trump est fascinant. Je veux dire, Trump a perdu à la fin. Il a perdu la main parce qu'il s'est laissé déborder. Il s'est laissé déborder, Charles. Il s'est laissé déborder par toute la sphère complotiste de QAnon, etc.
Non, je vais vous dire, c'est plus grave. La fin de l'année que je fais Trump, c'est qu'il n'a jamais réussi à reprendre le contrôle du ministère de la Justice. C'est-à-dire, ce qui est extraordinaire, c'est que pendant tout le qui avait été noyauté par Obama, il n'a jamais réussi à poursuivre ceux qui avaient fait des complots contre lui, parce que ça s'arrêtait toujours au ministère de la Justice. Il n'a jamais réussi à prendre le contrôle. C'est extraordinaire.
Alors, il a fait nommer quelques juges.
Le ministère de la Justice, c'est celui qui organise les poursuites.
Mais simplement,
il n'a jamais réussi.
C'est pour rebondir sur le candidat de 2022. Quand je me disais la petite erreur, à un moment donné, QAnon rentre dans le Capitole. Il n'aurait pas fallu qu'il rentre. Hein. Donc la sphère complotiste n'est pas contrôlable. Hein. À un moment donné, c'est le djinn que vous libérez. Et ça s'est retourné contre lui. Pour autant, la grande leçon qui nous assène, qui nous délivre, hein, c'est précisément ce clivage. Jouons sur ce clivage. Hein. La politique, c'est de l'ami et de l'ennemi. La politique, c'est de l'hostilité. Les gens l'ont oublié, la notion d'hostilité. Vis-à-vis de l'extérieur, mais également de l'intérieur, son adversaire idéologique. Le candidat qui n'assume pas cette différence idéologique... Hein, il est battu. Moi, après, je vous laisse la parole, Robert. Moi, je veux pas que les gens pensent que c'est une émission de connivence, hein. Mais j'ai été à Béziers 5 à 6 fois. Je suis sidéré par la manière dont cette ville a été métamorphosée. Donc, si on peut changer une ville en un mandat et demi, on peut la changer en un mandat et demi. On peut imaginer qu'on peut changer un pays en un mandat et demi.
Je voudrais ajouter un mot là parce que il me semble qu'il faut comprendre la sociologie. Vous avez mentionné Giscard, de ce qui nous est arrivé. C'est pour moi, l'analyse que je fais depuis toujours, c'est que dans le fond, vous avez 3 niveaux. Vous avez le peuple, qui se dépatouille, et comme disait ce brave Pompidou, mais arrêtez d'emmerder les Français, vous voyez, donc c'est ça le but. Puis vous avez l'État. L'État qui est une machine extraordinairement compliquée. Il faut faire des études brillantes pour comprendre comment l'État fonctionne, etc. Et là, vont dans l'État tous ceux qui ne veulent prendre aucun risque. Et qui aiment le principe de précaution, et c'est tout ça. Et en haut, vous avez tout en haut, vous avez le politique, c'est celui qui se fait foudroyer s'il se trompe, et qui prend des décisions sans avoir tous les éléments. Moi j'ai fait ça toute ma vie en tant que chef d'entreprise, vous l'avez fait en tant que maire, c'est très pénible de prendre des décisions en position de risque. Et les gens vous jugent ensuite sur votre capacité à prendre des décisions, à les assumer, Eh bien, depuis Giscard, le personnel administratif, extraordinairement intelligent et bien formé, a pris complètement le contrôle de la fonction politique. Nous n'avons plus de gens politiques. Robert Ménard est un politique puisqu'il est local, il gère à l'échelle locale, il montre les résultats à l'échelle locale. Mais quand j'étais enfant, quand j'étais jeune, vous aviez des tas de gens qui étaient le sénateur du coin, qui étaient docteurs, etc., que les gens respectaient. Donc vous avez eu la disparition du politique. La réalité, on a eu depuis 30 ans, 40 ans, la disparition du politique. Nous n'avons plus de politique. Mais
on a plus de politique aussi de la faute des politiques. Bien honnêtement, sûr. Aujourd'hui, moi je dirige une ville...
Mais les politiques sont des administratifs.
Je dirige une ville et une agglomération. La complexité... De l'état de droit administratif français fait que ce n'est pas vrai qu'un politique peut maîtriser. Vous êtes dépendant dans vos choix d'une couche de gens, vous le disiez, cultivés, spécialistes de tel ou tel domaine. La politique de l'habitat, ça, vous croyez que c'est assez simple, en gros, les HLM, les logements sociaux, c'est d'une complexité qui est phénoménal. Et quand j'en parle à Emmanuel, donc Emmanuel Ménard, qui est ma femme et qui est surtout en l'occurrence députée, je lui dis, vous votez des lois que je ne suis pas sûr que l'ombre d'un d'entre vous comprenne exactement les conséquences de ces lois-là.
Et les décrets d'application.
Mais c'est d'une difficulté. Ça n'appelle pas à un abandon. Ça appelle à encore plus de volonté et de courage. Et pour rebondir sur ce que disait François Bousquet, je pense que notre classe politique, y compris à la droite de la droite, fait une mauvaise analyse. C'est-à-dire qu'elle croit qu'aujourd'hui, les gens ont besoin de se réconcilier.
Non.
Qu'il y aurait besoin d'aller tendre la main à un certain nombre de gens. Et donc, comme en France, tendre la main à un certain nombre de gens, c'est tendre la main à un certain nombre de partis, on passe par ça. Non. Les gens aujourd'hui, mais c'est au moins qu'on ait retenu quelque chose des Gilets jaunes, c'est qu'au départ, les Gilets jaunes, c'est une révolte de gens qui n'ont pas envie de compromis, qui n'ont pas envie de ces discussions qui finissent par dire « mais chacun met un peu de vin d'eau dans son vin et on va y arriver ». Je ne crois pas ça, je crois qu'il y a une erreur, en particulier de la droite, sur aujourd'hui ce dont on a besoin. Et comme on n'a personne qui apparaît, qui est suffisamment fort, crédible et tout, pour dire « mais non, on peut regarder, on peut, avec nos idées, sur nos idées, sans compromis, gagner une majorité des Français », on est en train de perdre. Moi, je crois qu'on peut perdre. J'espère me tromper.
Moi aussi.
J'espère que vous vous trompez. Mais je voudrais dire une chose.
Et pour Marine Le Pen aussi, j'espère me tromper. J'espère qu'elle va gagner si demain elle était face à
Marine. Mais je voudrais dire une autre chose. C'est qu'en tant qu'homme d'affaires, il y a des moments où vous avez dans les affaires, ça marche pas. Bon, bref. Ben, quand ça marche pas, vous coupez tous les coups. Vous dites aux gens, vous voyagez en économie à la place de voyager en club. Enfin, vous coupez plus de notes de frais. Bon, parce qu'il faut couper. Quand je regarde l'État français, je me dis, mais on pourrait couper 10% des frais en 5 minutes, et toutes ces hautes autorités, tous ces grands conseils, tous ces trucs-là, et personne ne verrait la moindre différence. Vous voyez ce que je veux dire? Comme le monsieur qui gérait les retraites, qui avait 12 retraites publiques, vous savez comment il s'appelait là?
Je ne suis pas d'accord.
Charles,
mais on peut les couper si on veut.
Charles, je ne suis pas d'accord avec vous. Vraiment pas. Et là,
pourquoi?
C'est mon
expérience.
Les possibilités d'économie dans une mairie, dans un département, dans une région, en France, qui sont sans douleur, elles sont limitées.
Mais elles sont sans douleur pour les gars qui sont... Moi, ce que je dis, c'est qu'il y a des rentiers. Partout, on peut les supprimer.
Non, sans douleur, je parle pour le peuple français, dans sa masse, dans son étendue, dans sa majorité. Je veux dire, oui, on peut supprimer des choses. Moi, je vois, tu supprimes à la marge, tu supprimes, oui, toutes ces bidules qu'on a mis en place et tout. Mais après, et c'est pour ça qu'il faut du courage, c'est qu'après, il faut faire des choix. Et des choix qui sont forcément douloureux, y compris...
Alors, laissez-moi vous arrêter, parce que ce que
pardon,
vous dites...
Allez-y, continuez. Je finis juste. Bien sûr. Y compris. Je vais prendre les problèmes des fraudes, la fraude. Oui. Vous avez un discours incroyable en France. La droite, elle ne retient que la fraude sociale. La gauche, elle ne retient que la fraude fiscale. Le courage, c'est dire qu'il faut mener les deux de pair. Essayez de me trouver un homme politique qui dit ça. Je vais vous prendre une boutade et je finis là-dessus. Je suis très ami avec avec Louis Alliot, le maire de Perpignan. Je voyais, il a fait une déclaration il y a 3 jours où il disait « je vais créer 100 emplois ». Et Ça fait toujours plaisir. Je regarde le détail. Il dit oui, parce qu'il y a 100 personnes qui partent à la retraite et donc je vais les remplacer, donc je vais créer 100 emplois. Mais le problème, dans sa mairie comme dans la mienne, il arrive dans sa mairie, moi j'y suis depuis 6 ans, c'est que c'est pas ça, c'est qu'il faut supprimer un certain nombre d'emplois.
Bien sûr.
Mais ça, d'un coup, c'est autre chose à dire, je supprime un certain nombre d'emplois. Et la classe politique, je prends cet exemple parce que c'est quelqu'un que j'aime bien, la classe politique, y compris nos propres amis, j'attends de voir le courage qu'ils auront quand il s'agira de prendre un certain nombre de mesures difficiles, quand il s'agira de dire la retraite à 60 ans, c'est une bêtise, quand il s'agira de dire non aux syndicats, non à un certain nombre de gens, j'attends de voir si nous aurons.
Mais vous l'avez dit, Robert, et réciproquement, parce que chaque camp politique a un angle mort. Hein.
Prenons un exemple d'actualité, ça va faire un peu d'honneur de leçon, mais quand même. Le groupe Sanofi, moi j'ai rien contre le groupe Sanofi, ça a été le principal sponsor de Reportage Frontière pendant des années. Le groupe Sanofi rate son vaccin. Licencie, annonce le licenciement d'un certain nombre de milliers de gens. Et la semaine d'après, 15 jours après, annonce une distribution plus importante que l'année précédente de dividendes à ses actionnaires. C'est incompréhensible et moi, ça me choque profondément. Et ce que j'aimerais, c'est qu'on soit tous à le dire. Je veux dire, ça me choque profondément. Je comprends qu'on est employé de Sanofi et on va se retrouver au chômage, je pense, ou déplacé. Je pense qu'on a mille raisons de trouver ça exaspérant. Et moi, je veux pouvoir dire ça et en même temps pouvoir dire que quand M. Macron décide de modifier le fonctionnement de la SNCF aux grandes dames des syndicats de la SNCF parce que c'est une rente de situation pour eux, je suis aussi d'accord. Je veux pouvoir dire les deux choses en même temps.
Absolument.
Et je constate que le personnel politique ne le dit jamais. Dire, il est hémiplégique, il dit qu'une partie de ces deux choses. Et c'est de ça dont on crève. Et j'attends qu'on ait un espèce de porte-parole, de porte-voix, je sais pas quoi, comment il faut dire, de quelqu'un qui soit capable, pour nous, de dire ça avec la même force. La même force.
Et Robert, et on sait que c'est la formule gagnante, hein. En termes populistes, hein, si on veut avoir la masse électorale, c'est ça. C'est l'insécurité, l'articulation, l'équation insécurité sociale, parce qu'il y a une insécurité sociale, elle existe.
C'est évident.
Il est absurde de la nier. Et il y a une insécurité culturelle, sur laquelle la droite se focalise. Mais il faut que la droite voie également l'insécurité sociale qui affecte la ruralité, les campagnes, les villes désindustrialisées. Et c'est la formule électoralement magique. C'est celle de Trump, c'est celle de Salvini,
oui, mais
c'est celle de Johnson.
Mais la réalité, c'est quand même qu'il faut dire aux gens, si vous dites aux entrepreneurs, on va contrôler toutes vos décisions, comme pour Sanofi, c'est enlever la liberté. Et encore une fois, c'est dire aux gens, j'ai été au conseil de SCOR pendant un petit moment. Vous savez, c'est la grande société de réassurance mondiale, j'ai été pendant 5 ans. Je ne sais pas pourquoi j'y étais d'ailleurs, mais enfin j'étais très content parce que j'ai appris plein de choses. Eh bien, j'ai vu pendant ces 5 ans, l'administration prendre des mesures pour gérer SCOR à la place du personnel dirigeant. C'est-à-dire, petit à petit, donc... Ce que vous faites, c'est que vous émasculez.
C'est absolu.
Il faut que chacun soit responsable de son acte.
Attendez,
si Sanofi avait trouvé le vaccin, eh ben, il n'y aurait eu aucun problème. Mais encore une fois, la vie, c'est un processus darwinien. Et si vous intervenez dans le processus darwinien, vous faites survivre tous les dinosaures
mais
et tout le monde crève.
Vous avez raison. Mais moi, je plaide pas pour une, je sais pas quoi, une étatisation de l'économie. Quand dans ma mairie, par exemple, je suis un des rares maires en France à dire que je suis contre le statut de la fonction publique. Pour dire quoi? Parce que je dis, un type qui fait bien son boulot dans ma mairie, qui est de qualité, c'est pas le statut qui le protège, c'est la qualité de son travail. Je suis pas assez cinglé pour me séparer de quelqu'un qui fait bien son boulot, fonctionnaire ou pas fonctionnaire, je m'en contrefiche. Donc, je dis ça pour vous dire que je ne suis pas de ceux qui plaident pour toujours plus de protection. Mais en même temps, je vois un certain nombre d'excès dans un certain nombre de domaines qui me révoltent. Comme maire, je sais ce que c'est la liberté d'entreprendre, je la respecte, mais quand je vois les entreprises publiques, parapubliques et certaines grosses entreprises privées quitter les villes, les petites villes de province, parce qu'ils préfèrent des centres où il y a une université, des centres où il y a plus de commerce pour leurs épouses ou pour leurs époux quand c'est des dirigeants, des femmes, où l'université est là, donc leurs enfants seront là. Attendez, comment je fais, moi? Je pense que oui, il y a une intervention de l'État qui est nécessaire à un moment donné. Sinon, le darwinisme dont vous parlez, c'est la mort de toute une partie de la France. Et moi, je l'aime, cette France. En plus, vous êtes gonflé parce que je vous connais, vous l'aimez.
Je l'aime profondément. Mais vous savez qu'est-ce qui crée cette espèce de chose dont vous parlez, qui est dans le fond ce que j'appelle le capitalisme de connivence? C'est les taux d'intérêt à zéro. Parce que s'il y avait des taux d'intérêt normaux, ce qui se passe, c'est que si vous mettez des taux d'intérêt à zéro, Goldman Sachs, qui peut emprunter à zéro, emprunte à zéro, achète les actions de Sanofi et fait une pression sur le conseil d'administration de façon à fermer les endroits qui sont soi-disant pas rentables, etc. Si les taux d'intérêt étaient à un niveau normal, ben Goldman Sachs ne pourrait pas acheter des actions en empruntant à zéro, faire une pression sur Sanofi. Donc à partir du moment où vous mettez les taux d'intérêt à un niveau où... Prenons un autre exemple. Les assurances-vie, c'est 1500 milliards d'euros en assurance-vie. Les Français, dans le temps, touchaient 5%. Sur 1500, ça leur faisait 75 milliards d'argent qu'ils pouvaient dépenser dans la consommation. Vous avez mis maintenant les taux d'intérêt à zéro. C'est-à-dire que les pauvres gens dans les assurances-vie, vos retraités, ils touchent zéro. C'est-à-dire qu'on a mis un impôt de 100% sur l'épargne des petits gens. Pourquoi ? Pour que Goldman Sachs puisse emprunter à zéro. Mais c'est monstrueux. Vous comprenez ce que je veux dire?
C'était
inimaginable. Donc, on fait un transfert fiscal monstrueux avec ces taux d'intérêt à zéro, des pauvres vers les riches. Mais c'est monstrueux. C'est inimaginable de faire ça. Donc, ce que j'essaye de dire, c'est l'État qui intervient partout, qui met les taux d'intérêt à zéro pour sauver l'euro, qui est une connerie, et bien en même temps, ça veut dire que c'est les pauvres qui payent, c'est la France périphérique, c'est tout ça, parce que leur niveau de vie s'écroule. Mais c'est honteux. Et personne ne dit rien.
Je voudrais revenir en arrière sur...
Est-ce qu'on est nul en économie, Adrien?
Mais c'est ça le problème. L'économie, c'est facile. C'est un repas gratuit, ça n'existe pas. C'est-à-dire, les transports gratuits, c'est quelqu'un d'autre qui les paie.
Ah, mais ça, je sais. Je le dis assez.
C'est toujours quelqu'un qui paye.
Je le dis assez aux...
Revenons sur cette question du darwinisme. Elle est au cœur d'une vision d'un capitalisme un peu débridé.
Mais pas du tout débridé.
Allez-y.
Ne mettez pas de jugement de valeur, parce que sinon je vais m'énerver.
Alors, si, parce que en l'occurrence, il y a un problème. On peut avoir une vision du darwinisme. Après tout, moi, ça peut me séduire, le darwinisme du 19e siècle, parce qu'il a un côté dynamique, sauvage, cruel. Pour autant, aujourd'hui, le darwinisme, si on l'applique tel que vous le concevez, mais c'est la mort de la société, c'est la mort des nations, c'est la mort de la communauté.
Mais jamais de la vie. Il y a les seules sociétés. Regardez les sociétés les plus humaines, les plus artistiques, etc. Ça a été Venise, ça a été Amsterdam, ça a été Londres, et c'était les endroits. C'était le moment, parce que l'idée que le darwinisme, c'est l'égoïsme, c'est une imbécilité.
Non, mais c'est très précisément, parce que si on a une vision intelligente, après tout, il n'a pas été repensé, ce darwinisme, parce que pour le dire clairement aux gens qui nous regardent, c'est sorti de la pensée de Darwin par Spencer, une école de pensée anglaise qui a appliqué le struggle for life, la lutte pour la vie, dans les sociétés humaines. Et donc, c'est les meilleurs qui gagnent, éventuellement qui écrasent les moins bons. Mais simplement, c'est pas ça, un darwinisme intelligent. Le darwinisme intelligent, c'est ce que dit Robert, c'est pas d'angle mort, pas d'hémiplégie. La vie est un équilibre, une dynamique et un équilibre de la droite et de la gauche, du darwinisme, je parle aux chrétiens, et du christianisme, du payant et de la gratuité. Si vous retirez ça, il n'y a plus de vie de famille. Parce que si j'applique le darwinisme, si j'applique le darwinisme à la vie de famille, pourquoi j'écrase mes enfants?
Mais vous confondez le capitalisme avec l'égoïsme et avec le... Ça n'a strictement rien à voir. Regardez par exemple. Aujourd'hui, nous avons toutes les grandes universités américaines, qui sont des puits de science où c'est passé des milliers, ont été créées par des individus.
Oui, oui.
Parce qu'ils avaient gagné beaucoup d'argent. Donc ils étaient tous sauf égoïstes. Ils voulaient transmettre la connaissance.
C'est un épisode qui est fascinant. Parce que ça montre la différence entre l'Amérique du Nord et l'Europe. Ça s'est passé d'une autre manière. C'est ce qu'on a appelé le grand épisode. C'était un âge d'or économique aux États-Unis. Il y a eu un épisode dit des barons voleurs. Qui est fascinant parce que c'est un western financier.
On va pas revenir là-dessus, parce que là, on est en train d'aller dans des détails.
On s'éloigne.
Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que il y a une loi qui ne connaît pas d'exception. C'est la loi de Pareto. La loi de Pareto, c'était un grand économiste. La loi de Pareto, c'est que 80% de l'alcool en France est bu par 20% des gens. 80% des accidents de la route est fait par 20% des conducteurs. 80% de l'argent est gagné par 20%
des
gens.
Elle est fascinante, cette loi.
Oui, et ça marche pour tout, et je peux vous l'expliquer pourquoi ça ne peut pas être autrement dans la nature. Bon, vous prenez ces 80%. Dans les 20% qui créent, donc 80% de la richesse, 80% de la richesse est créée par 20% de ces gars-là à nouveau. Donc 4% des gens créent 50% de la richesse. Si vous les empêchez de créer, il n'y a plus de richesse.
Non, il ne faut pas, surtout pas les empêcher.
Donc la seule façon de les... c'est de leur foutre bien la paix. Donc ce que vous devez faire, c'est que vous devez libérer le système économique et faire comme au Danemark, monter un système de protection individuelle contre les excès de ce... Mais ce qu'on a fait en France, c'est qu'on a monté un système qui empêche le darwinisme. Moi, je dis, il faut laisser le darwinisme, il faut laisser les gars qui ont envie de se mettre sur la gueule aller se mettre sur la gueule. J'en suis un, je sais de quoi je parle. Et ensuite, prendre une partie importante des impôts et permettre de... Mais l'État qui intervient dans la production, c'est une imbécilité.
Attendez, mais moi, je participe exactement de vous, de ce que vous dites, quand vous dites, en gros, ne bridons pas l'initiative individuelle. Moi, j'ai passé ma vie à créer des choses.
Mais voilà.
Voilà. Mais c'est pas ça. Mais en même temps, cette création d'initiative et tout, elle a des effets positifs. Mais moi, je veux, en même temps, alors là, je parle comme maire, protéger des gens
voilà.
qui, eux, pour tout un tas de raisons, pas seulement parce que ils seraient quoi, fainéants, parce qu'ils seraient je sais pas quoi, bien sûr que non, parce qu'il y a des gens qui ont pas tous les moyens de faire
mais
ça,
je suis d'accord.
Et que ces gens-là, je veux les protéger. J'ai des frères qui, on n'était pas tous pareils, on est de la même famille, on n'avait pas les mêmes atouts, on n'a pas réussi nos vies de la même façon, et je pense que chacun a sa place.
Je ne veux pas
qu'on vive dans une espèce de confort de l'assistanat, encore que confort de l'assistanat, il faut se le dire
non,
quand
c'est
même.
Très médiocre. Hein.
Dans la réalité, vivre avec le RSA, j'attends de voir qui d'entre nous accepterait de vivre avec le RSA, même si ça lui permettrait de ne jamais travailler. Aucun d'entre nous
d'entre
nous
ne veut jamais travailler.
Mais non, je dis, c'est bien pour ça. Je dis, il y a ça. Alors, c'est contraire à ce que je dis, il faut avoir le courage de dire l'un et l'autre. Moi, c'est juste ça que j'essaye de dire.
D'accord.
À la fois dire non, on ne va pas renationaliser un certain nombre de banques, d'assurances vie ou je sais pas quoi. C'est
dans les boulots vont disparaître.
Voilà, on va pas le faire. Non, on va pas demander aux mairies. Moi, je suis maire, de gérer systématiquement tout un tas de services publics quand de temps en temps le privé le fait mieux que nous. Mais en même temps, il y a des services publics où il faut que ça reste le fait du service public. C'est juste ça. Moi, je demande juste, au fond, c'est quoi ? Du courage, de l'audace et un truc que les gens supportent pas qu'on appelle comme ça, c'est le bon sens. Il y a des choses qui sont de bon sens. Dans ma ville, j'en sais rien moi, les cantines, honnêtement, il vaut mieux des privés pour les faire. Parce que faire les cantines, on les fait pas bien. En revanche, balayer les rues, je vous garantis que c'est mieux que ce soit la ville. Et parce que je suis là, je le contrôle, je peux appeler et le changer. Voilà, c'est un peu
des réglages. Hein.
Voilà,
c'est du pragmatisme.
Mais il faut un pragmatisme radical. Je sais pas dire. Le pragmatisme, souvent, ça finit par une espèce de centrisme politique. Je déteste ça.
Moi aussi. Laissez-moi vous expliquer ce qu'ils ont fait en Suède, parce que je connais bien la Suède, mon frère vient en Suède, etc. Ils ont fait faillite en 92. Je peux le dire ça, mais la Suède, un peu comme l'Angleterre, avant Madame Thatcher, ils ont fait faillite quasiment. Donc, ils ont commencé à tout mettre à plat. Et les Suédois, ils aiment beaucoup parler. Ils sont très consensuels. Donc, ils ont dit, bon, alors on va regarder. Ils avaient un système d'éducation nationale qui était comme l'éducation nationale française, un truc hiérarchique. Ils ont dit, bon, alors on est tous d'accord ici en Suède pour que tous les enfants aient une bonne éducation. Tous d'accord. Personne ne voit d'inconvénient à ça. Deuxièmement, on est tous d'accord pour que ce soit payé par les impôts. Ben oui. Tout à fait d'accord. Est-ce qu'on est tous d'accord pour que ce soit donné par des fonctionnaires ou est-ce qu'on peut ouvrir ça à la concurrence ? Et les Anglais ont dit ce qu'ont fait les Suédois, c'est qu'ils ont dit bon, ce qu'on va faire, c'est que 7 familles ensemble peuvent ouvrir une école. On donne un ticket pour l'école. Et les bonnes écoles auront plein de tickets, les mauvaises écoles n'auront pas de tickets. On monte un système de réglementation pour qu'on vérifie que l'éducation est bonne, qu'on ne va pas faire des conneries. Et on réintroduit la concurrence dans le monde des écoles sans réintroduire l'argent. Et bien ça, je trouve ça génial.
C'est-à-dire que,
et ça marche, le tonnerre de Dieu. Et ils ont fait la même chose pour les retraites. Et ils ont fait la même chose. Donc je veux dire, ils redonnent aux citoyens l'utilisation de ces impôts. C'est-à-dire que c'est le citoyen qui décide comment il va... voyager, comment il va, les transports en commun, comment il va prendre sa retraite, comment il va faire élever ses enfants. Et je trouve ça génial. Parce que on sort de cette espèce de protection de la fonction publique qui nous fait crever.
Et en même temps, je crois que de temps en temps, il faut avoir le courage d'aller contre l'opinion des gens.
Oui,
mais là, parce que quand même, l'art, c'est pas l'art, la difficulté de la politique que moi je vis au
cours
de
temps. C'est de savoir dire non.
C'est exactement ça. C'est juste, et y compris de dire non à une majorité des gens, y compris à dire non à une majorité des gens qui votent pour toi, y compris à dire non aux gens qui t'entourent, de dire non aux gens qui pensent comme toi.
Exactement.
Et avoir c'est juste ça le courage. Le courage au fond, c'est ça.
C'est de dire non.
Ça se tient ça.
Le courage, c'est.
Et je vous garantis que c'est pas facile.
Ah, mais dire non,
malheureusement tous les jours.
C'est horrible. Mais l'idée, c'est de rendre le pouvoir au souverain. Et aujourd'hui, c'est pas difficile que le souverain, le peuple, puisse avoir accès, pour un certain nombre de choses, à la disposition des impôts qu'il paye. Enfin, que la population paye. Je vois pas pourquoi ça doit être fait par des technocrates à Paris. Je vois pas pourquoi des hôpitaux à Béziers doivent être gérés par des corneaux à Paris qui ont jamais vu un malade. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut ramener le service.
La bureaucratie dans le monde de la santé, on a mesuré ce que c'était. Absolument.
Mais, voilà, mais c'est
absolument
inimaginable.
Et en même temps,
l'éducation est venue de fabrique à crétins.
Et en même temps, on a mesuré la qualité incroyable des médecins dans les hôpitaux, des infirmières, des filles de salle, des femmes de salle et tout, qui sont incroyables. Il suffit d'aller dans un hôpital.
Et qui sont pas payés.
Et qui t'accueillent de façon incroyable et qui te tendent la main quand tu as le plus besoin.
Mais
les deux choses.
Mais en même temps,
ça ne remet pas en cause ça.
J'ai reçu ici Jean de Cabasdoué qui a été un type qui a été directeur général des hôpitaux puis qui dans les Avignons ont beaucoup évolué depuis le temps. Mais il dit que maintenant l'hôpital, les médecins n'ont plus rien à dire. Les médecins.
Oui, l'administration a pris le pas.
L'administration contrôle tout. Et donc, pour remplir un. Si vous donnez un antidouleur à un pauvre gars qui est en train de souffrir, il faut que vous remplissiez d'abord un truc sur ordinateur qui va à un gars qui le valide, qui le tamponne, qui l'envoie à la pharmacie, et le type, il rame pendant 6 heures à avoir mal partout. Quoi.
Mais ça, c'est un classique des structures qui deviennent pachydermiques, des structures
C'est ça, ça a un coût, ces structures.
Des structures hypertrophiées. Et il faut une dévocation du politique en 2022-2027. Hein, ça va être de dégraisser, d'apprendre à dire non, pour après dire un grand oui, un oui positif, un oui offensif, un oui dynamique. Hein, mais en effet, apprendre à dire non. Et de fait, la France, on est comme les dinosaures. Hein. Il y a un processus darwinien là. On est devenu trop gros. Ce qui tue le dinosaure, hein, c'est alors peut-être l'impact d'une météore, hein, mais ce qui le tue, c'est qu'il n'arrive plus à porter son propre poids. Il est devenu trop massif. Hein.
Et il faut à peu près 2 heures pour que l'information qu'il a reçue, quelqu'un l'a tapé sur la queue, arrive sur son cerveau.
Ouais, exactement.
C'est effrayant. Bon alors, qu'est-ce qu'on fait, enfin ? Parce que moi, on est en train de dire, il faut quelqu'un.
D'abord, on est optimiste.
D'abord, on est optimiste, je suis d'accord avec vous.
Ce pays, il s'est quand même relevé de moments aussi graves, bien plus graves qu'il ne le vit aujourd'hui, je le pense.
Oui, tout à fait.
Je vais être volontairement optimiste. Pas naïf, optimiste, je le suis. Voilà, c'est un problème de casting, si j'ose dire ce mot affreux qui est de leadership.
Ce que j'essayais de monter, c'est de monter un système où il y aurait une série de vieux cons, c'est-à-dire moi et d'autres, qui essaieraient de sélectionner pour les Français en leur disant « on a étudié cet ou huit gars-là, c'est celui-là qui est le moins mauvais ». Vous voyez ce que je veux dire? Est-ce qu'on peut essayer?
Non, ça ne marche pas.
Le problème, c'est que les 7 ou 8 pensent qu'ils sont tous les meilleurs.
Ils veulent tous être calife à la place du calife.
Voilà, et jusqu'à présent, c'est ce que les élites ont fait. Oui. C'est qu'ils ont offert aux Français un panel, un échantillon de personnages en disant « celui-là est exceptionnel, son niveau d'études est royal ».
Les bons élèves, c'est très dangereux.
Oui, mais ça ne marche pas. Il faut rendre au peuple.
Alors qu'est-ce qu'on fait? Dans la pratique.
J'essaie de le dire de ce livre, il faut quelqu'un de mal élevé. Il faut quelqu'un qui emploie les bons.
Un cancre.
Pas forcément. Non, mal élevé.
Mal élevé.
J'adore la formule. Hein. Il faut quelqu'un de mal élevé.
Quelqu'un qui dit à quelqu'un, dans la vie, tu dis pas à monsieur, je suis pas franchement d'accord avec vous, tu dis, va te faire foutre. Voilà. Je pense qu'il faut parler comme ça. Pas par démagogie. parce que ça permet aux gens de se réapproprier la politique eux-mêmes. Je le pense fondamentalement.
Et la langue, et le langage, et le langage.
Et puis il faut que dans nos amis, je sais pas comment les définir, il faut arrêter de se prendre pour ce qu'on n'est pas. Enfin, attendez, il faut raison garder pour un certain nombre d'entre eux. Il faut savoir comment on entre faire un discours sur une estrade et diriger la France, il y a un gouffre. Il y a des propos que j'entends, moi, de nos amis tenus publiquement ou dans des émissions de télé. Je dis aux gens, mais venez donc le tenir dans un quartier de Béziers. Tu vas voir si tu finis la phrase. Je veux dire, il y a juste des choses comme ça. Moi, j'étais pour la proportionnelle à un moment donné. Vous savez, je vais revenir à ça. J'étais pour la proportionnelle en disant, quand même, c'est plus juste. J'ai complètement changé d'avis.
Oui, je suis d'accord.
Vous savez pourquoi j'ai changé d'avis ? D'abord parce que la proportionnelle, c'est la reine des partis.
Et puis c'est le règne des tout petits partis.
Et c'est le règne de tout un tas de gens qui décident ou qui sont élus sans avoir aucune expérience de ce que c'est se coltiner une réunion de quartier avec des gens qui vivent dans une rue et où tu dois régler le problème de cette rue. Or, tu veux changer la France, il faut quand même d'abord s'occuper de la rue des gens. C'est la première chose qu'ils font quand ils sortent de chez eux. Voilà ce que j'essaye de dire dans ce livre et ailleurs publiquement et tout. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, j'ai le plus grand mal, sauf si d'un coup vous avez la baguette magique, à imaginer qui peut incarner ça. Qui peut incarner ça ?
Et comme vous l'avez dit, Robert, ce n'est pas la première fois dans l'histoire de France qu'on est au bord du gouffre. Hein. Ça nous est arrivé quantité de fois.
Moi, j'ai toujours on a fait un pas en avant et on est tombé. Hein.
On s'est relevé. C'est quoi la marche de l'homme ? C'est un processus de chute hein, en permanence redressé. Quand vous marchez dans la rue, vous chutez. Vous redressez. Je parlais l'histoire de France. Hein, il faut toujours avoir en tête le mot de Jeanne d'Arc. Hein. Il y a grande pitié au royaume de France. Hein. Donc il y a des grandes ressources dans ce royaume, dans ce pays. Peggy disait un royaume, c'était une démocratie. Il faut qu'on retrempe la démocratie, pas dans la proportionnelle. Hein. C'est un joujou. Pas, vous l'avez dit Robert, la démocratie participative, c'est un joujou. Mais il faut la retremper dans la démocratie directe. Hein. Il y a la voie gaulienne, hein, référendaire. Hein.
Mais bien sûr.
Il faut mettre une batterie de grands référendums sur des grands sujets pour asseoir la légitimité du futur dirigeant ou de la future dirigeante. Hein. Elle sera incontestable. 50% plus 1 des Français sont contre l'immigration. 50% plus 1 Français sont pour la libre entreprise, etc. Tout d'un coup, vous avez une légitimité qui est d'airain. On peut tout faire. Hein. Sur 5 ans, on peut tout faire.
Mais pour ça, il faut commencer par gagner la première fois les élections.
Il faut avoir le candidat ou la candidate. Mais je ne désespère pas. Je ne vais pas citer le mot de Maurras sur l'espoir est une sottise absolue en politique, puisque la monarchie n'est jamais revenue. Donc, pour le coup... Le constat, c'est le fameux mot de Gramsci, le constat de l'intelligence est mécaniquement pessimiste. Hein. Mais le constat de la volonté, ce n'est pas un constat. C'est l'énergie portée par la volonté est optimiste. Hein. Donc, je suis plein de confiance pour 2022.
Si je vous entends bien, grosso modo, il faut revenir un petit peu à la souveraineté, au souverain, et lui demander son avis.
Il faut un populisme autoritaire.
Oui, oui,
mais, ben voilà.
Mais c'est ce
il
que
faut
nous,
un populisme
mais,
autoritaire.
Mais notre tradition, la tradition française correspond exactement à ces deux mots. Populisme autoritaire. Nous ne sommes pas des Suisses. Je le regrette à titre personnel. Moi, je ne suis pas un Jacobin. Je suis un Girondin. Mais de fait, je constate, dans la France périphérique, que les gens ne veulent pas participer au pouvoir. Ils n'en ont pas pris l'habitude. Ce sont des latins. L'Église catholique leur a dit c'est pyramidal, que sais-je. Ils ne veulent pas. Donc, ils veulent de l'autorité. Moi, le mot autorité, des fois, fait peur. Moi, j'emploie maintenant le mot bon pasteur. Un mot plus évangélique. Les gens cherchent le bon guide. Cherche le bon pasteur hein, qui ne va pas les trahir, qui ne va pas leur mentir, qui ne va pas leur donner un coup de poignard dans le dos. C'est ce que le peuple plébiscite, hein, une autorité verticale bonapartiste.
Et voilà, ben écoutez, je crois qu'on va...
Thérapie de choc.
Thérapie de choc, voilà. Mais on sait tout ce qu'il faut faire, on le sait depuis longtemps. Et vous vous souvenez, est-ce que vous avez lu une bande dessinée il y a bien longtemps qui s'appelait Le Schtroumpfissime ?
Non, j'avoue que ça m'a échappé.
Ça vous a échappé, le Strumpfissime, c'est pas dans votre culture?
Ah si, 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 moi j'ai lu, mais ça me dit rien, c'est pas...
Le Strumpfissime, c'est, vous savez, c'est le grand Schtroumpf qui s'en va pour aller chercher quelque chose dont il a besoin, et puis ensuite, les Schtroumpfs se disent, mais comment on se gouverne? Et puis ils rentrent dans le principe, il y en a un qui devient qui se fait une tenue en or, et qui choisit un chef de la police, et tout, et qui monte par ambition personnelle, et ça commence à foutre en l'air la société des Schtroumpfs. Donc grosso modo, nous avons été gouvernés par des gens qui réfléchissaient comme les Schtroumpfs, le Strumpfissime, et là, tout s'améliore quand le grand Schtroumpf revient, si vous voulez, donc votre autoritaire populaire, là, à ce moment-là, tout le monde dit, le problème, populiste autoritaire, le problème, si vous voulez, c'est que nous avons beaucoup de candidats au Strumpfissime, et très peu de candidats qui veulent exercer le rôle du grand Schtroumpf, vous voyez ce que je veux dire, c'est-à-dire d'être... Primus inter pares, le premier parmi les... Donc,
parmi ses
pairs. Je vois la solution. Entre la solution et aujourd'hui, il y a du chemin et je sais, c'est là où est la difficulté.
La nature politique, comme la nature en général, a horreur du vide. Hein. Donc elle finira.
C'est le trop-plein.
Elle finira. Alors, c'est le trop-plein et on le dégagera. Puis le trop-point, il est marginal. Hein. Pour le moment, alors, c'est la politique fiction, on ne va pas non plus en faire.
Non, non,
mais c'est, on a une candidate qui est à 20% au deuxième tour. Et donc, qui est en mesure d'être... À 20% au premier tour, pardon, et qui est en mesure d'être au deuxième tour. Est-ce qu'elle veut le pouvoir? Jusqu'à présent, elle a montré qu'elle n'en voulait pas. Elle y allait à reculons. Mais après deux échecs, peut-être que...
Son père aussi.
Son père, elle a fait quatre échecs. Cinq échecs.
Mais son père, il voulait le rôle du tribun dans la Rome antique. Il voulait pas le rôle, il voulait pas le politique, il voulait le rôle tribunicien, c'est-à-dire dire ça va pas du tout les gars, ça m'a rien bon
peut-être
coup.
Peut-être qu'elle est en train de changer, peut-être que...
Ouais, souhaitons-le.
Je le souhaite tellement de tout cœur.
On est tous d'accord, il faut absolument qu'il y ait quelqu'un qui émerge et qui ait un socle. Eh ben écoutez, encore une fois, merci beaucoup. N'oubliez pas de vous inscrire à l'Institut des Libertés, parce qu'il paraît que si on passe 100 000 inscrits, on va toucher des grosses recettes de télévision, de publicité et tout, ce qui va nous changer la vie. On pourra enfin inviter des gens puissants et qui ont des choses qui disent ce que dit tout le monde, à la place d'inviter des gens qui pensent pas comme tout le monde. Vous êtes une minorité. Je suis très content de voir. Et puis, merci d'être venu, mais si vous trouvez une solution, vous m'appelez tout de suite. Hein.
Le documentaire Chemin de France, présenté par Jean-Baptiste Noé et réalisé par Franck Martin, a rejoint la nouvelle plateforme associative VOD France, qui veut soutenir et mettre en valeur les productions indépendantes. En quatre volets, vous allez pouvoir voyager et entendre des artisans s'exprimer. Un format d'émission libre et spontané.
Nous allons vous accompagner sur les chemins de France.
C'est à Bonneval que le premier épisode commence. Jean-Baptiste va sillonner la région pour partir à la découverte d'artisans.
Donc nous sommes avec Yves qui collectionne des tracteurs.
Une rencontre avec Franck, un artisan vannier qui nous partage sa passion pour l'art de la vannerie. Avec Emmanuel, un agriculteur et microbrasseur. Une autre rencontre atypique avec Yves et Laurent, collectionneurs et amoureux de vieux tracteurs. Une balade en calèche avec Patrice. Jean-Baptiste va aussi passer à l'ancien prieuré de Marmoutier, forteresse isolée se dressant au milieu des champs de blé. Une nouvelle étape gastronomique avec la fameuse terrine bonnevalaise, élaborée par la confrérie des Fêlés. Sébastien le caviste va déguster avec Jean-Baptiste quelques vins du Val-de-Loire pour accompagner les repas et les grillades. Et pour finir, Marie-Thérèse vous présentera sa production de fromage au lait de chèvre. La série Chemin de France continue avec un deuxième documentaire où Jean-Baptiste Noé rencontre Thomas Blonsky, le maire de la petite commune de Chapelle-Royale. Un petit village de la région centre, aux portes du Perche, peuplé de 600 habitants. Ce maire, contre l'avis général, a pris le pari de réintroduire des commerces de proximité et des services pour redonner de la vie à son village et lutter contre la désertification du monde rural.
On m'a dit, mais Thomas, c'est pas viable, ça fonctionne depuis 10 ans.
La série Chemin de France propose aussi un troisième documentaire où Jean-Baptiste enquête sur le terroir. De la terre jusqu'à l'assiette, avec une escapade gourmande avec le chef Benoît Cello. C'est dans le fameux restaurant de Chartres, le Grand Monarque, que Jean-Baptiste rencontre le chef. La mission est de cuisiner un poulet et le transformer en plat de fête. Dans la même journée, le poulet passe du producteur au cuisinier et dans votre assiette. Visitons la ferme, visitons le potager de Diane, du local, de la tradition, du terroir. La série Chemin de France est aussi un quatrième numéro, à la rencontre d'artisans d'art. Trois découvertes. Un atelier réputé pour leurs vitraux, une forge, un tailleur de pierre. Vous l'avez compris, ces épisodes sont des voyages, à la découverte des richesses du patrimoine historique de nos régions. J'espère que cette présentation vous a donné envie de visionner cette série de documentaires. Si vous souhaitez passer un bon moment ou simplement aider l'Institut des Libertés, tout est disponible en VOD, en DVD, ou ça, sur vodfrance.com. Le lien se trouve en description YouTube sous la vidéo. Le site est une initiative de l'association Studio Phocéen, qui depuis 2007 propose des activités pour les passionnés du cinéma et de l'audiovisuel. Merci à vous et à bientôt.